Alors, on va aller dans Genèse 25, versets 27 à 34. On vient de le lire tantôt. Le titre que j'ai donné à ce sermon-là est assez simple. C'est « Ésaü méprise son droit d'aînesse ». C'est ça que le texte dit, que Ésaü a méprisé son droit d'aînesse. Et pour comprendre qu'est-ce que ça signifie, mépriser le droit d'aînesse, il faut comprendre qu'est-ce que c'est le droit d'aînesse. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ça? Puis qu'est-ce que ça signifiait pour lui de mépriser une chose qui était si riche, qui était si importante? Alors, on va regarder dans le texte aujourd'hui trois choses. Le mépris d'Ésaü, on va voir dans le verset 27 que Ésaü avait une certaine prédisposition au mépris des choses spirituelles à cause de son caractère. Et on va regarder ça un peu plus en détail tantôt. La deuxième idée qu'on va regarder, c'est que le mépris d'Ésaü a été en quelque sorte préparé par l'attitude de ses parents envers eux. Alors, il y avait dans la famille, c'est un peu comme un père de famille, aujourd'hui une mère de famille, qui donnerait une préférence à un de ses enfants à cause qu'il y a une qualité chez un de ses enfants qu'il préfère et que c'est très dangereux faire ça. Et la preuve, c'est que c'est ça qu'il faisait. Son père préférait Ésaü parce qu'il mangeait son fils allait à la chasse, il ramenait du gibier sauvage, il préparait des bons plats et Jacob était bien content. Donc, il préférait son fils à cause de ça. Sa mère, elle préférait Jacob. Alors, pas Isaac, excusez-moi, j'ai dit Jacob, c'était Isaac. Elle préférait Jacob parce qu'il était un homme tranquille, un homme avec un caractère doux, un homme plus porté à la méditation qu'à l'action, tandis que son frère était complètement à l'opposé. Et on voit deux parents qui, face à leurs enfants, ont une attitude différente, une attitude qu'on préfère l'un à l'autre. Ça, c'est à éviter pour les parents à tout prix, parce que ça amène des problèmes énormes dans une famille. Et la troisième idée qu'on va regarder, c'est que le mépris d'Ésaü est précipité. Autrement dit, quand on lit le texte avec attention, on se rend compte que Ésaü a agi avec précipitation. Précipitation, ça veut dire que tu agis vite, tu ne réfléchis pas. La seule chose qui compte pour toi, c'est l'immédiat. Il a faim, il veut manger. Quoi. Tu sais quoi, tu as le droit de... Il rejette ça, mais ça a coûté sa vie éternelle. Alors, quelque part, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que ça veut dire abandonner son droit d'aînesse, mépriser son droit d'aînesse. Alors, les deux personnes d'Ésaü et de Jacob, quand on prend l'ensemble des Écritures, parce que Ésaü, là, il est dit dans Genèse, mais il va revenir plus tard. On va même en parler dans le livre d'Hébreux. Quand le Seigneur va parler, il va vouloir dire qu'il y a des choses qu'il faut éviter, c'est d'être profane, comme Ésaü. On va revenir aussi sur le terme profane. Alors, les deux personnes d'Ésaü et de Jacob sont étudiées dans Romains aussi, dans le livre de Romains, où Dieu dit « J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü ». Alors, ces affaires-là, c'est plein de sens et les Écritures les réutilisent plus tard dans d'autres livres pour nous parler que, dans le fond, ils représentent, sont symboliques de deux caractères. Et les deux caractères, c'est simple, c'est qu'Ésaü représente l'homme non régénéré, l'homme charnel, qui, devant les choses spirituelles, n'en reconnaissent pas la valeur. Et Jacob, on sait, le Dieu dit, Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, il fait partie de la lignée des ceux qui sont des élus de Dieu. Donc, un représente l'homme charnel, Ésaü, et l'autre représente l'homme spirituel, l'homme sauvé, l'homme élu de Dieu. Alors, ce sont toutes les deux des symboles. L'homme charnel et non sauvé, pour Ésaü, et l'homme spirituel est élu de Dieu pour Jacob. La preuve de ça, c'est qu'on va aller lire le petit passage dans Romains 9, où Dieu nous parle, il utilise les deux personnages pour nous parler du principe de l'élection. Alors, on va aller dans Romains 9, versets 10 à 16. C'est un passage extrêmement riche, Romains 9. C'est un passage aussi qui est très disputé dans le sens de son interprétation. Mais quelque part, il faut quand même retenir que Dieu utilise ces deux caractères-là et dans le Nouveau Testament. Là, on est dans Genèse, on est dans le premier livre de la Bible. Le Seigneur va revenir dans Romains, le Seigneur va revenir dans Hébreux avec ces caractères-là. Alors, dans Romains 9, versets 10 à 16. Et non seulement cela, ben, il en arriva de même à Rebecca, quand elle eut conçu en une fois deux enfants d'Isaac, notre père. Autrement dit, il est en train de rappeler que Isaac a eu deux enfants. Un s'appelait Ésaü, l'autre s'appelait Jacob. Et ça dit, car les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient fait ni bien ni mal, et afin que le décret d'élection de Dieu demeurât ferme, non à cause des œuvres, mais à cause de celui qui appelle, il lui fut dit, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, verset 13, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Nullement. Car il a dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à celui à qui je ferai miséricorde, et j'aurai pitié de celui de qui j'aurai pitié. » Cela ne vient donc ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Alors, le choix des deux hommes sont riches d'enseignements à travers toutes les Écritures. Parce que si on recule de ce qu'on a vu la semaine dernière, on a vu que le Seigneur avait dit des choses concernant l'avenir de ces deux enfants-là. Il avait dit dans Genèse, au chapitre 25, verset 23, il y avait une prophétie qui avait été faite par Dieu lui-même. L'Éternel lui dit, il parle à Rebecca, et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti le plus petit, servira le plus petit. » Alors, dans le fond, c'était celui qui sortait le premier, c'est celui qui aurait dû avoir le droit d'aînesse. C'est lui qui l'avait. Mais le Seigneur avait dit, un de ses peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand servira le plus petit. On va voir que plus tard comment ça va se réaliser. Alors, dans le passage qu'on va étudier aujourd'hui, on va voir comment le Seigneur va utiliser les comportements fautifs à la fois d'Ésaü et à la fois de Jacob pour accomplir sa prophétie. Parce que là-dedans, il y a eu deux comportements, tous les deux fautifs. Ésaü, ça a été de vendre son droit d'aînesse. L'autre, ça a été de le tromper. On va voir un petit peu plus tard qu'il a même essayé de tromper son père à cause... il s'est déguisé, autrement dit, pour tromper son père. À quelque part, on voit que les deux caractères, il y en a un qui était vraiment le type de l'homme charnel, mais l'autre aussi de l'homme spirituel qui, de temps en temps, fait des bêtises. Et c'est un peu ça qui se passe ici. Isaac avait entendu cette prophétie du Seigneur. C'est drôle qu'il avait entendu, mais il n'avait pas compris que c'était le plus jeune qui dominerait le plus vieux. On aurait dit que lui, il voulait que ce soit le plus vieux qui domine. Il y avait un petit problème dans sa tête de compréhension de ce que le Seigneur avait dit. Cependant, il semble qu'il ne l'avait pas vraiment comprise et avait, comme son épouse Rebecca, cherché à s'interposer dans le plan de Dieu. Quand Dieu fait une promesse, qui avait dit le plus jeune va dominer le plus vieux, il n'y avait pas besoin que l'homme vienne essayer de s'interposer dans son plan pour essayer de faire accomplir par leur comportement ce que Dieu avait promis. Pas la première fois qu'on voit ça, hein? Abraham, la femme d'Abraham, quand elle avait dit va vers ma servante et je vais avoir l'enfant. Alors, quand l'homme cherche à intervenir dans le plan de Dieu, c'est toujours catastrophique. Dieu n'a pas besoin des hommes pour accomplir son projet. Et ici, on va voir que Jacob, malgré qu'il avait une bonne intention, il voulait avoir le droit d'aînesse parce qu'il comprenait qu'est-ce que ça impliquait et il voulait se l'approprier, mais il ne l'a pas fait de la bonne façon et il était vraiment malhonnête en exploitant la faiblesse de son frère. Alors, quelque part là-dedans, on voit les misères des deux hommes. Alors, ils ont cherché à s'interposer. Isaac, il voulait transmettre la bénédiction à son fils le plus vieux, alors que Dieu lui avait dit que ce serait le plus jeune qui dominerait le plus vieux. Et Rebecca, elle a conseillé plus tard à son fils, Jacob, à usurper la bénédiction par la fourberie et la tromperie. Parce que ça, on va le voir un petit peu, on avance, le chapitre 26 va commencer à nous montrer qu'est-ce que le caractère des deux a continué à... Alors, il y en a un qui, non seulement il s'est accaparé du droit d'aînés, mais après, il s'est accaparé de la bénédiction qui était rattachée au droit d'aînés, quelque part. Alors, bien entendu, à l'intérieur de ce texte-là, il faut voir Ésaü comme un symbole des hommes charnels qui méprisent les choses spirituelles, qui s'enracinent dans la profanité. On va revenir sur le terme profane, qu'est-ce que ça veut dire un peu plus tard, et qui devient, à cause de son comportement, un apostat. Un apostat, c'est tout simplement une personne qui n'est pas sauvée. Jacob, lui, devient le symbole des hommes élus et spirituels, mais qui utilisent parfois des moyens tordus pour hâter le plan de Dieu et s'interposer avec fourberie dans le déroulement de la providence divine. Dieu n'avait pas besoin qu'il s'interpose, mais Dieu se sert des misères, Dieu se sert des péchés de l'homme, un peu comme quand on voit dans le livre de la Genèse, un petit peu plus loin, quand on va voir l'histoire de Joseph. Ses frères ont voulu s'en débarrasser par jalousie et ils ont voulu faire du mal à Joseph. Alors que Dieu se sert du mal qu'ils ont voulu faire à leurs frères pour, au contraire, faire du bien. Il n'y a rien que le Seigneur qui est capable de prendre du mal et de le transformer en bien. Ici, on a un peu l'exemple de ça. Parce que Ésaü fait du mal, mais Jacob, il fait du mal aussi. Mais à quelque part, le choix, bon choix qu'il a fait, Dieu va l'utiliser pour réaliser la promesse qu'il avait faite dans Genèse 25, quand il dit « Le plus jeune va dominer le plus vieux ». Alors, dans le verset 27, ce qu'on voulait regarder, on a parlé qu'il y avait trois idées. La première idée, c'était que le mépris d'Ésaü était en quelque sorte prédisposé. Alors, ça dit « Les enfants grandirent et Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob était un homme paisible, se tenant dans les tentes. » Alors, on voit qu'il y en a un qui était un homme de type actif, aller dans le champ, c'est un homme de plein air. Tandis que l'autre, un homme, il restait sous les tentes, c'est un homme domestique, c'est un homme qui restait tranquille. Et on avait vu dans les chapitres précédents que c'était un homme qui méditait, c'est un homme qui priait, c'est un homme qui était plus disposé aux choses spirituelles que l'autre. L'autre, c'est un homme d'action, il faut que ça bouge, faut que... Et quelque part, son caractère le prédisposait déjà à un genre de comportement un peu charnel. On sait que les styles de vie qu'on a, qu'on choisit, sont toujours nos choix moraux. Notre style de vie et nos choix moraux forgent notre caractère. Plusieurs facteurs influencent nos choix dans la vie. Si on regardera tout ce qu'on a fait dans nos vies, à partir de notre jeunesse, à venir jusqu'à aujourd'hui, on verrait que, dans le fond, il y a plusieurs facteurs qui nous influencent dans le choix de ce qu'on fait, d'où ce qu'on est. Un des facteurs, c'est sûrement notre constitution physique. Alors, si un homme pèse 250, on voit des fois à la télévision celui qui annonce, comment il s'appelle, il est gros. Hugo. Ben, Hugo, là, il ne pouvait pas devenir un poète. C'est un gars, déjà, le corps que le Seigneur lui a donné le prédisposait à certaines façons d'agir. Il y a aussi le tempérament que le Seigneur nous a donné. Ou on est en tempérament doux, ou on est en tempérament bouillant. Et tout ça, ça influence de la façon, nos choix moraux et ce qu'on va devenir dans la vie. Il y a aussi l'exemple, l'influence de l'exemple dans notre famille, dans notre entourage. Pourquoi certains deviennent des mécaniciens? Pourquoi d'autres deviennent un menuisier? Pourquoi d'autres deviennent un poète? Pourquoi d'autres deviennent un universitaire? On a toutes des influences et c'est ça qui fait qu'un jour, on choisit un métier plutôt qu'un autre. Il y a aussi l'entourage, bien entendu, notre entourage, l'éducation qu'on a reçue. Il y a aussi l'effet des conseils parentaux. Quand les parents donnent des bons conseils à leurs enfants, que les enfants sont obéissants et réceptifs aux conseils de leurs parents, souvent ça a un effet très positif sur la vie de l'enfant. Et le plus important des facteurs qu'on vient de regarder, ils sont tous importants, mais il y en a un qui est bien plus important que ça, c'est celui de la gouverne souveraine du Seigneur dans nos vies. Il ne faut pas oublier qu'on est sous la gouverne souveraine, le roi est au-dessus de tout ça. Et c'est lui qui décide où on est, ce qu'on va faire, la durée de notre vie et bien d'autres choses. L'ensemble de tout ce qui va nous arriver dans nos vies fait partie du décret divin de Dieu, la gouverne souveraine de nos vies. Si on parlait ce matin des difficultés qu'on vit, une chose qu'il ne faut pas oublier jamais lorsqu'on traverse des difficultés, on en a tous traversé et on va en traverser encore, il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier. On est faible, pauvre et misérable. On est plein de besoins. La chose souvent qu'on oublie à l'intérieur de quand on vit ces choses-là, c'est d'aller devant le trône de la grâce pour demander. Ça le dit, c'est un trône, et lui, c'est lui qui trône. Donc, c'est lui qui décide s'il donne ou s'il ne donne pas. D'aller au trône de la grâce pour lui demander ce que nous voyons que nous avons besoin. Le Seigneur dit dans Jacques, celui qui manque de sagesse la demande, il lui sera donné. Mais qu'il la demande sans douter. Mais c'est la même chose pour quelque autre besoin qu'on peut avoir, c'est la patience. On se rend compte, la vie nous montre nos déficiences, nous montre nos misères. Et quand Dieu nous les montre, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas d'autre chose à faire que d'aller au trône de la grâce puis dire, « Seigneur, tu me montres que je manque de... » Mettez le mot que vous voulez au bout, là, de patience, de sagesse, de ce que vous voulez. Il faut la demander au Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, je te demande de me donner de la sagesse. Aujourd'hui, je te demande... Et on mentionne notre déficience devant Dieu. Et Dieu nous écoute et nous exauce. Il nous donne ce qu'on a besoin. Mais on l'oublie tellement. Un exemple dans l'évangélisation, souvent j'ai entendu ça. On va dire, on parlait d'évangélisation, on va dire, oh ben moi, je suis pas capable d'évangéliser, j'ai peur. J'ai peur qu'on me bafoue, j'ai peur qu'on rie de moi, j'ai peur... Oui, va devant le Seigneur, puis dis au Seigneur, moi j'ai de la misère à évangéliser parce que j'ai peur. Donne-moi de la hardiesse. Et penses-tu qu'il n'est pas capable de t'en donner de la hardiesse? Il nous a donné, regarde, l'apôtre Pierre, il est apeuré comme un lapin quand le Seigneur il s'est sauvé, il se cachait. Et après, il s'en va dire au Sanhédrin, man, toi, les sages de l'époque, les religieux, les chefs religieux, il lui a fait un discours. Pour un gars qui se cachait, là, y a-t-il une petite différence dans son comportement? La hardiesse, il l'a obtenue, mais il l'a obtenue par grâce. Il ne faut jamais oublier que tout ce qu'on a besoin, il faut aller le demander à Dieu. Et quotidiennement, plus particulièrement pour les faiblesses qu'on sait qu'on a. Alors, si on ferait une étude approfondie de la vie d'Ésaü, on verrait certains traits de son caractère dans les choix qu'il a faits et dans le choix de son métier. Lui, il aimait dehors puis bouger. Alors, on voit plusieurs choses. On va les nommer. C'était un homme énergique, mais très impulsif. On le voit par son comportement. C'était aussi une autre chose. C'était un homme charnel. C'était un homme sensuel, il se laissait mener par ses sens. C'était un homme glouton. On va le voir dans le texte, pourtant, je vais tout aller chercher ça qui était glouton. Vous allez voir dans le texte, des fois, c'est parce que quand les mots nous sont dits dans l'hébreu, des fois le mot hébreu veut dire quelque chose qui est difficile à traduire. Et la gloutonnerie est dans son caractère. Quand quelqu'un dit... certaines traductions ne diront pas « Donne-moi de ce roux-là que je le mange. » C'est que je l'avale. Tu sais, quand quelqu'un mange assez rapidement, qu'il ne mange pas, il avale. C'est un homme qui était porté à la gloutonnerie. Et c'est un homme qui était colérique. On va le voir plus tard, pas nécessairement dans le passage d'aujourd'hui, mais plus tard, on va le voir parce qu'il s'est choqué après son frère au point, quand il s'est fait voler sa bénédiction, là, il a voulu le tuer. Alors, il était un homme qui était un petit peu vengeur. C'était aussi un homme qui était de nature inconsciente, ne vivant que pour gratifier ses sens dans l'immédiat. J'ai faim, peu importe s'il y a du spirituel, je suis prêt à aller changer pour un plat de bine. Quelque part. Alors, gratifier ses sens dans l'immédiat et sans se soucier des conséquences que ces choses-là pouvaient avoir. Donc, sa destinée éternelle, c'est important, ça. Plus important que ça, ça ne se peut pas, là. Alors, ça, pour lui, c'était pas important, c'était important. Là, je viens d'aller à la chasse, je suis épuisé, je t'avais de mourir, donne-moi un plat de bine. Là, l'autre, il dit, ben oui, mais il faut te le donner, mais avant, promets-moi que tu me vends ton droit d'aînesse. Et dans ses légèretés, il a dit oui. Quand on va savoir tantôt qu'est-ce que ça comprend, le droit d'aînesse, on va dire qu'il a fait un méchant coup, là, une méchante bêtise. C'était un homme aussi qui avait un raisonnement misérable. Quand tu fais un échange, moi, si je vais te voir chez vous, disons que tu as un Cadillac, puis j'arrive chez vous, je vais dire, puis je te dis, m'a donné un 10 pour ton Cadillac. Et le gars qui l'accepte, là, son raisonnement, il y a quelque chose qui ne va pas bien dans sa tête, là, quelque part. Disons que le char vaut 75 000 ou 100 000, puis moi, je lui offre 10 piastres, puis il le prend. Quelque part, ça vient de démontrer que son raisonnement, ça ne va pas trop bien dans sa boîte à poux, comme on peut dire, là. Hein? Alors, c'est un homme au raisonnement misérable, on va le voir. C'est un homme aussi qui est un homme d'excès et d'addiction à son sport de la chasse. Il aimait la chasse à un point où, quand il partait à la chasse, il se rendait... Il va dans les excès, et quand il est arrivé, il était là. Il était plus capable, il était fatigué au point qu'il était prêt à donner son droit d'aînesse pour avoir un plat de bine. Si on regarde, par exemple, la vie de Jacob, on voit lui aussi qu'il y a des caractéristiques qui sont démontrées dans son comportement. C'est un homme de méditation, un homme paisible et un homme de prière. On l'a vu dans les chapitres précédents. Quand le serviteur d'Abraham est allé chercher sa femme, il était dans les champs et méditait avec sa femme. Alors, c'est un homme qui était porté à la méditation. Un homme porté aux choses domestiques, ça dit qu'il restait toujours dans les tentes avec sa mère plutôt que de sortir, courir dehors. C'était un homme aussi qui avait le métier de berger. Alors, encore là, ça parle un peu de son lien avec le grand berger. Ce sont des choses qui parlent quand même. C'est un homme qui était porté aux choses spirituelles, qui est manifesté par plusieurs façons. On va le voir dans les chapitres plus loin, là. Son désir du droit d'aînesse. Pourquoi il voulait tant ce droit d'aînesse-là? C'est parce qu'il savait qu'est-ce que ça représentait et quelle était la valeur de ces choses-là. On comprenait l'importance, il comprenait les privilèges qui étaient rattachés à ça, et surtout, il comprenait les conséquences de l'avoir ou de ne pas l'avoir. C'était un homme qui avait une vision à long terme. Et ses défauts, il y en a, là. Alors ses défauts, la tendance à la tromperie et à la fourberie. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous montrer? C'est que même quand on est des chrétiens, même quand on est sauvé par le Seigneur, même quand on est des élus, il y a encore des caractères, des traits de caractère que le Seigneur a besoin de changer dans nos vies. Et quand vous lisez la vie de Jacob, vous allez voir qu'il va rencontrer chaussure à son pied à un moment donné quand il va aller voir son cousin Laban. Son cousin Laban est encore plus fourbe que lui. Alors, il a rencontré chaussure à son pied. Souvent, le Seigneur va se servir d'un trait de caractère qu'on a pour nous en faire rencontrer d'autres qui sont comme nous autres dans la vie, pour nous corriger. Et quand on regarde la fin de la vie de Jacob, on a vu que la tromperie et la fourberie, c'est comme, c'était parti. Qui s'en est occupé? Lui-même? Non, c'est Dieu qui a fait, qui l'a dompté, autrement dit, par les circonstances. Il lui a fait vivre des choses. Il s'est fait tromper par Laban pour la première femme. Il s'est fait tromper la deuxième fois, il avait pris des arrangements. Laban, il l'a encore trompé. Autrement dit, pour avoir sa femme qui aurait dû l'avoir au bout de 7 ans, ça lui a pris 20 ans à l'avoir, sa vraie femme qu'il désirait. Là. Alors Dieu lui a montré la tromperie. Il a mis l'heure juste, autrement dit. Le deuxième point qu'on va regarder, c'est que le mépris d'Ésaü est préparé dans le verset 28. Et Isaac aimait Ésaü, car la venaison était de son goût, mais Rebecca aimait Jacob. Alors on voit le père qui en préfère un, la mère qui en préfère un autre, pour des raisons pas particulières. Il y a une observation qui est faite dans les commentaires que j'ai utilisés, que je trouve intelligente, parce qu'il dit « Nous savons que les personnes avec une disposition naturelle à la tranquillité, comme celui de Jacob, et à une vie en retrait, sont souvent fascinés par un tempérament plus pétillant, plus aventurier et plus énergique comme celui d'Ésaü. » Donc lui, le père, était un homme tranquille, mais son gars était un gars d'action. Et souvent, les contraires comme ça de tempérament s'attirent l'un l'autre. Alors c'est pour ça qu'il préférait son fils, parce qu'il lui emmenait de la venaison et il aimait ça. Puis Rebecca, quant à elle, elle préfère le tempérament tranquille et plus porté aux choses domestiques, comme celui de Jacob. La famille est donc divisée. Rien que deux membres, père et la mère, sont déjà divisés après quelques années de mariage. À cause de la compréhension de ce que le Seigneur a dit, il semble que Rebecca avait mieux compris et Jacob avait mieux compris ce que Dieu avait dit. Mais ils n'ont pas utilisé de bons moyens. Ils auraient dû juste laisser les choses aller. Dieu aurait accompli sa promesse sans que l'homme ait été besoin d'intervenir. On va regarder le troisième point. Donc, à quelque part, on apprend là-dedans par ce passage-là que le favoritisme envers nos enfants, quand on a des enfants, c'est mortel. C'est pas bon. Ça donne une mauvaise influence. Ça peut amener de la jalousie. Ça peut amener de la rivalité. Ça peut amener toutes sortes de problèmes. Troisième point qu'on voulait regarder, c'est que le mépris d'Ésaü est précipité dans le sens que son action se fait sans aucune réflexion. Alors, on va lire Livre 29 à 34. « Et comme Jacob cuisait du potage, Ésaü vint des champs, et il était là. Et Ésaü dit à Jacob, « Donne-moi à manger de ce roux-là. » Pourquoi son nom, déjà, s'appelait roux? Il était roux quand il était amené au monde. Là, il voit le plat de bine, ça devait être rouge ou roux. Là. Donne-moi de ce roux-là. Il ne sait même pas c'est quoi, mais donne-moi ça, j'ai faim. Car je suis très fatigué. C'est pour cela qu'on appela Édom roux. Donc, Ésaü est devenu Édom, et quand on lit l'histoire à travers les Saintes Écritures, à travers les livres de l'Ancien Testament, on se rend compte qu'Édom est devenu un ennemi d'Israël. Mais Jacob dit, « Vends-moi d'abord. » Oui, là, on voit le caractère de Jacob qui est un joueur de tour, on pourrait dire. C'est comme si, comme je l'ai dit tantôt, tu vas voir quelqu'un avec un Cadillac, tu lui dis, « Je vais te donner un 10$ pour ton Cadillac. » Puis tu dis oui. Alors, lui, il dit, « OK, tu veux en avoir mon plat? » Mais Jacob dit, « Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. » Et Ésaü dit, « Voici, je m'en vais mourir. » Il est tellement fatigué qu'il pense qu'il va mourir. Et on voit qu'il, par son caractère, il est un petit peu porté à l'exagération. « Je m'en vais mourir. À quoi me sert le droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-moi d'abord. » Autrement dit, « Tu plottes bine, tu n'auras pas si tu ne me le jures pas d'abord. » Et il lui jura. Ainsi, il vendit son droit d'aînesse à Jacob, et Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles, et il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. Ainsi, Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Alors, quand on dit que quelqu'un agit avec précipitation, c'est quelqu'un qui agit avec une hâte, on pourrait dire, excessive, et il utilise l'improvisation, et il manque de réfléchir à ce qui est en train de se passer. Alors, tous les traits négatifs du caractère d'Ésaü se révèlent dans ce passage. Versets 29 et 30. « Il est porté aux excès. » Versets 29 et 30. La version King James traduit le mot « là », que nous, dans cette version-là, ça traduit par « très fatigué », par le mot « faint », F-A-I-N-T. « Faint », ça veut dire que tu es tellement fatigué que tu es sur le bord de l'épuisement puis de l'évanouissement. T'as-tu un gars qui t'a porté aux excès, tu peux? Normalement, tu ne serais pas supposé te rendre là. Alors, Ésaü a abusé de son amour de la chasse et de son désir de satisfaire son père Isaac. Il est fatigué au point de s'évanouir. Alors, la version très littérale de Lausanne 1872 traduit l'expression du verset 30 « Donne-moi à manger » dans notre version à nous. Mais la version Lausanne traduit, « Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi donc avaler du roux, de ce roux, car je suis là. » C'est pourquoi on appelle son nom Édom, qui veut dire roux. « Laisse-moi avaler, c'est plus fort que manger. » C'est que, amène ça ici, que je me bourre la bête, autrement dit. Alors, tu as un homme porté aux excès. Alors, l'expression « laisse-moi donc avaler de ce roux-là » laisse entrevoir un trait de son caractère. Il est porté à avoir un appétit vorace et à être glouton. On sait, la gloutonnerie, c'est manger d'une façon comme un animal. Deuxième trait de caractère, donc, est porté aux excès, versets 29 et 30. Versets 31 et 32, il y a un raisonnement qui est un raisonnement spirituel qui est faible et boiteux. Verset 31-32, « Mais Jacob dit, « Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. » Et Ésaü dit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert le droit d'aînesse? » Alors ici, Jacob est en train de faire ce qu'on appelle un marché de dupes. Quelqu'un qui sait qu'il y a une terre, si disons que sa terre vaut 5 millions, puis je m'en vais le voir, puis je dis, je vais te donner 100$ pour ta terre. Il va dire, un marché de dupes, c'est ça. Un marché de dupes, c'est de savoir la valeur de ce que l'autre a et de ne pas donner vraiment ce que ça vaut à l'autre. Alors, c'est ça qu'il est en train de faire. Il savait le droit d'aînesse, qu'est-ce que ça représentait, et il lui dit, regarde, va te donner un plat de bine, puis on va faire un échange. Mais promets-le-moi. La transaction est très abusive, un vrai marché de dupes que Jacob offre à son père, à son frère fatigué, et est accueilli avec une légèreté spirituelle coupable et très pécheresse. Il exagère démesurément son état et son besoin lorsqu'il dit « Voici, je m'en vais mourir. » Quand tu es fatigué, mais tu ne mourras pas pour ça. tu vas te relever, là. Alors, il comble la mesure de sa folie et de son inconscience en disant cette phrase ignoble, odieuse et abominable aux yeux de Dieu. À quoi me sert le droit d'aînesse? On va le développer tantôt, l'idée de c'est quoi le droit d'aînesse. Et là, on va comprendre qu'est-ce qu'il a fait en réalité. Alors, pour comprendre la gravité de son péché, on se doit de nous rappeler. Des fois, il faut faire une étude un petit peu plus en profondeur. On voit le droit d'aînesse, des fois, on comprend pas vraiment qu'est-ce qu'il est en train de faire et les conséquences que ces choses-là vont avoir. Il faut faire une étude sur le mot « droit d'aînesse ». Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on se met à regarder l'ensemble des versets qui parlent de ça dans les Écritures et qu'on rassemble ça tout ensemble et qu'on voit ce qu'il a craché dessus, on se dit « son raisonnement là, est un petit peu tout croche ». Alors, chose que ça donnait, le droit d'aînesse, l'aîné recevait la bénédiction de son père et toutes les bénédictions contenues dans les promesses de l'Alliance. Isaac avait reçu d'Abraham les bénédictions de l'Alliance et normalement le plus vieux, celui qui avait le droit d'aînesse, recevait l'ensemble des choses qui sont contenues dans l'Alliance, qui sont des choses de nature spirituelle, la venue du Messie, le pardon de tes péchés, la vie éternelle et toutes ces choses-là. Parce qu'il faut reculer un petit peu dans Genèse pour les voir, les promesses que Dieu avait faites, et c'est sur ça qu'il a craché. Genèse 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, ça c'est l'Éternel, alors on voit Abraham, Isaac, Jacob. Alors, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, du lieu de ta naissance et de la maison de ton père, dans la terre que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, qui te maudira. Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Hey, c'était énorme, la bénédiction qu'il recevait, là, c'était énorme. Il crachait dessus. C'est un grave péché qu'il a fait. Mais il y avait d'autres promesses qui avaient été faites. Souvenez-vous dans Genèse 22, quand on a passé dans Genèse 22. Genèse 22, c'était le passage où Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils. Et on sait qu'il a acquiescé à ça, il a voulu, oui, dire, oui, je suis prêt à le faire. Et il l'a fait, et Dieu, après qu'il l'a eu fait, Dieu lui a fait une promesse. Et la promesse est la suivante, Genèse 22, versets 16 à 18. Le Seigneur dit, « J'ai juré par moi-même. » Ça, ce n'est pas des petites promesses. Quand Dieu dit, « Je jure par moi-même. » Dieu, tu as besoin de jurer? Il dit jamais un mensonge, jamais, jamais. Mais quand il jure par lui-même, ça veut dire qu'il insiste sur le fait que ce qu'il dit est une vérité qu'on ne peut même pas imaginer la grandeur. Il dit, « Car j'ai juré par moi-même, dit l'Éternel, parce que tu as fait cette chose-là, d'offrir son fils en sacrifice, et que tu n'as pas refusé, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai de toute bénédiction, au pluriel, et je multiplierai abondamment ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre se béniront en ta postérité parce que tu as écouté ma voix. Ça aussi, ça faisait partie des promesses qui étaient dans l'Alliance et dans le droit d'aînesse. Parce qu'il recevait la bénédiction. Ce qui avait été promis à son père, Abraham, transmis à son fils, à Isaac, et normalement transmis à lui, lui crache dessus. Parce qu'il était le premier né. Donc, normalement, c'est lui qui aurait dû recevoir ces choses-là. Deuxième chose que ça comprenait le droit d'aînesse, il recevait l'autorité du père sur ses frères. Il aurait dû dominer sur son frère. Mais vous souvenez-vous ce que le Seigneur avait promis? Que le plus jeune va dominer sur le plus vieux. Alors, il aurait dû le recevoir, mais il l'a pas reçu parce qu'il a craché dessus. La troisième, c'est que l'aîné, le plus vieux, devenait un maillon. Il était un anneau dans la chaîne des descendants qui donnerait naissance éventuellement au Messie. C'est comme si il se rend pas compte que le plus vieux, le droit d'aînesse comprend, c'est que le Messie va venir par un de tes descendants. Lui dit, c'est grave ce qu'il fait. Quatrième privilège, l'aîné recevait une double portion de l'héritage paternel. C'est comme si quelqu'un, disons que vous êtes millionnaire, puis tu craches sur la double portion. Il va t'en donner deux fois plus que les autres, parce que tu es le plus vieux. Et ça dit dans Genèse 49, verset 3, Ruben, tu es mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, prééminence de dignité et prééminence de puissance. Donc, ça lui donnait de la dignité et de la puissance. Ça aussi, il crache là-dessus. Cinquièmement, l'aîné agissait comme sacrificateur de sa famille et de sa tribu. C'était le plus vieux qui recevait le pouvoir de devenir sacrificateur. C'était important dans l'Ancien Testament. Sixièmement, l'aîné recevait l'héritage terrestre, le pays ou le territoire de Canaan. Le Seigneur avait dit, oui, tu vas recevoir un pays. Et lui, il dit, on ne veut pas. C'est comme s'il avait dit ça. Et le septièmement, l'aîné jouissait de la puissance avec Dieu et de la puissance avec les hommes. Ésaü agissait de manière profane. On revient sur le mot profane, parce que là, il faut revenir dans le Nouveau Testament pour voir comment Dieu, le Saint-Esprit, voit le comportement d'Ésaü. Hébreux, chapitre 12, versets 14 à 17. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Verset 15 commence par un mot important, « veillant ». Autrement dit, fais attention. Veillant à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant dehors ne vous trouble et que plusieurs n'en soient infectés. L'infecté, on sait ce que c'est, hein? Si c'est quelqu'un qui est vraiment malade, ils nous font mettre des robes, ils nous font mettre des masques. Et il est en train de dire, fais attention, parce qu'il y a deux problèmes que je suis en train de te parler. Fais particulièrement attention aux deux problèmes que je te mentionne. À ce qu'il n'y ait point de fornicateur. Fornicateur, c'est un manquement au problème, au commandement de Dieu, mais commandement de Dieu face aux hommes. Et après ça, il va dire quelque chose. Ni de profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Car vous savez que voulant, même après cela, hériter de la bénédiction, il fut rejeté, car il n'obtint pas un changement de résolution. Autrement dit, il n'a pas obtenu la repentance, pas la véritable. Il y a eu un regret. Quand il s'est rendu compte que son frère lui avait volé sa bénédiction, il a hurlé de douleur, il a crié. Et quand il s'est rendu compte qu'il avait donné ça par fourberie, il a dit, lui, là, je vais le tuer dès la première chance que je vais avoir. Alors, il dit, il n'obtint pas un changement de résolution, quoiqu'il le demanda avec larmes. Des larmes de crocodile, le Seigneur ne tient pas compte de ça. Il peut avoir, s'être rendu compte qu'il avait perdu quelque chose, mais ce n'était pas quelque chose qui avait vraiment compris le sens de tout ce que ça comprenait. L'auteur chrétien, Arthur Pink, pour ceux qui le connaissent, c'est un excellent auteur, reproduit la remarque suivante dans son livre de commentaires sur l'Épître aux Hébreux, dans le livre qui s'appelle Exposition of Hebrews. Et là, je vous dis ce qu'il dit, ce que lui dit sur le terme profane. C'est important de le comprendre parce qu'il est en train de dire, il dit, le terme profane a une signification plus spécifique et une application plus large que ce qui est communément accordé dans notre discours d'aujourd'hui. On dit que les choses saintes sont profanées quand les hommes enlèvent la vénération qui leur est due aux choses saintes et les exposent à l'usage commun ou au mépris. Profaner, c'est violer, corrompre, prostituer à usage commun les choses sacrées, soit dans leur nature ou par institution divine. Une personne profane est une personne qui méprise ou condamne les choses sacrées, comme se moquer de la religion, ou qui regarde à la légère les promesses et les menaces de Dieu, qui méprise ou néglige le culte qu'on doit rendre à Dieu, qui parle avec irrévérence de ses préoccupations, nous appelons ces personnes profanes et dont le monde est rempli aujourd'hui. Cette profanité est la dernière étape de l'entrée dans l'apostasie finale. Lorsque les hommes de professants de religion deviennent des méprisants et moqueurs de la religion, leur état est dangereux, sinon irrévocable. Ça, c'est une traduction que lui est allé chercher dans un livre par le plus grand théologien de tous les temps. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes modernes considèrent John Owen, c'est un puritain, comme étant un des plus grands théologiens de tous les temps. Et c'est John Owen qui a écrit ça. Lui est allé chercher cette citation-là et il nous l'a dit. Et la profanité, c'est quelque chose de beaucoup plus grave qu'on croit. Alors, les profanes sont coupables de piétiner les perles divines sous leurs pieds. Ils le font. Puis remarquez s'il n'y a pas des choses dans votre entourage que vous n'avez pas déjà remarquées, là, dans ce que je veux dire. Ils le font en dédaignant les Saintes Écritures. On en voit-tu du monde aujourd'hui qui dédaigne les Saintes Écritures? En désacralisant le sabbat, le jour du Seigneur. En méprisant les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde se moque des... En ridiculisant l'Évangile. Avez-vous déjà entendu parler des personnes qui méprisent l'Évangile? En se moquant du ciel ou de l'enfer. Ils prennent des choses d'une gravité et d'une profondeur qu'on ne peut même pas comprendre nous-mêmes, je dis exhaustivement, et eux, ils méprisent ça. On voit ça tous les jours, des Ésaü, là, c'est des hommes charnels, ils ne comprennent pas les choses de nature spirituelle, ils ne comprennent pas l'impact que ces choses-là vont avoir. Et le troisième trait de caractère qui est mentionné pour celui d'Ésaü, Ésaü choisit la folie, et il ne connaîtra pas la repentance, dans le verset 33 et 34. Jacob dit, « Jure-moi d'abord, et lui jura. » Ainsi, il vanda son droit d'aînesse à Jacob. Jacob donna à Ésaü du pain et du potage. Et là, il y avait promis. Et il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. Ainsi, la dernière phrase, c'est du jugement divin. Ésaü méprisa le droit d'aînesse. La folie d'Ésaü de jurer légèrement et sans réflexion sur les conséquences de son geste. Le reste de son histoire démontre qu'il ne s'est jamais vraiment repenti. On va aller voir dans Genèse 27, versets 33 à 37 et verset 41. Juste pour voir un petit peu plus tard comment ça s'est manifesté, sa folie. Et Isaac fut saisi d'une émotion extraordinaire. Quand il était saisi de son émotion extraordinaire, c'est quand il a appris que son frère lui avait volé sa bénédiction en se déguisant, en mettant du poil sur ses mains, sur son cou. Il dit, et Isaac, quand il a vu qu'il avait été trompé, Isaac fut saisi d'une émotion extraordinaire. Et il dit, « Qui est donc celui qui a pris du gibier et m'en a apporté? Et j'ai mangé de tout avant que tu vinsses et je l'ai béni. » Et aussi sera-t-il béni dès qu'Ésaü eut entendu les paroles de son père. Il jeta un cri très grand et très amer. Et il dit à son père, « Bénis-moi, moi aussi, mon père. » Mais il dit, « Ton frère est venu avec ruse et il a pris ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé Jacob qu'il m'a supplanté deux fois? Il a pris mon droit d'aînesse, et voici maintenant, il a pris ma bénédiction. Ensuite, il dit, n'as-tu point de réservé de bénédiction pour moi? Et Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, et je l'ai pourvu de froment et de moût. Et que ferai-je donc pour toi, mon fils? Ésaü prit Jacob en aversion, à cause de la bénédiction que son père lui avait donnée. Et Ésaü dit en son cœur, les jours du deuil de mon père approchent, et je tuerai Jacob, mon frère. Alors, trois applications que je vois dans le texte d'aujourd'hui. La première, apprenons que les promesses et les prophéties divines n'ont aucun besoin de l'intervention des hommes pour essayer de la faire accomplir. Cependant, le Seigneur utilise les péchés et les erreurs humaines pour accomplir son plan. Deuxième application, évitons les péchés d'Isaac et de Rebecca, qui ont pratiqué le favoritisme dans l'amour de leurs enfants, et de Jacob, le péché de Jacob, qui était l'impatience, la malhonnêteté et la fourberie. Les Écritures nous donnent plein de leçons à l'intérieur de ces quelques versets-là. Et la troisième, méditons sur la vie d'Ésaü. Il a négligé les choses éternelles de Dieu pour jouir des choses éphémères de ce monde. N'est-ce pas ce qu'on voit autour de nous aujourd'hui? Une erreur fatale pour sa destinée éternelle. Échanger ta destinée éternelle pour un plat de bine, là. Il ne faut pas que tu sois trop fort dans le ciboulot, comme on dit. Alors, que notre grand et glorieux Seigneur soit béni, loué et adoré pour les leçons magistrales qui sont contenues dans les Saintes Écritures et qui sont tous, à quelque part, en rapport avec le Messie Jésus-Christ. Amen.